Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à cette nouvelle édition des Mardis d'éthique publique. Nous vous remercions pour votre présence à ce rendez-vous de réflexion à la croisée du politique, du spirituel et du social. Le 13 mars 2013, les cardinaux élisaient pape Jorge Mario Bergoglio, premier jésuite, premier pape non européen de l'ère moderne. En 12 ans, il a marqué l'Église par un style pastoral fort, prophétique et souvent clivant, que ce soit sur la réforme de la curie, la synodalité, l'écologie intégrale ou encore l'écoute des périphéries. Après sa mort, on s'attendait à un conclave relativement long, tant les quelques 130 cardinaux électeurs provenaient tous de tous les horizons et se connaissaient peu. Et surprise, l'Esprit-Saint a fait son œuvre avec l'élection au quatrième tour seulement d'un relatif outsider, Francis Prévost, un Américain d'ascendance espagnole, créole, louisianaise et haïtienne, mais aussi italienne et français, qui a passé les deux tiers de sa vie en dehors de son pays. Un religieux, mathématicien, canoniste. Vous direz chacun ce qui vous frappe le plus chez lui. Léon XIV, entre en scène dans un climat chargé, des conflits géopolitiques, la remise en cause par Donald Trump de l'ordre né de la Seconde Guerre mondiale, des tensions au sein de l'Église, bousculées par la sécularisation, la montée des évangéliques, les scandales d'abus. Ses premiers gestes ont été sobres, son ton mesuré. Il a salué l'héritage de François tout en laissant entrevoir un retour à une forme de gouvernance plus diplomatique, peut-être plus institutionnel. Ces défis sont nombreux. Tenir ensemble tradition et réforme, relancer la voie morale de l'Église sur la scène internationale et poursuivre la lutte contre les abus. C'est autour de cette question que nous vous invitons à réfléchir ce soir, avec trois intervenants de tout premier plan. Honneur aux dames, Blandine Chélini-Pont, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste de la géopolitique du christianisme et en particulier du catholicisme aux États-Unis. François Mabille, vous êtes chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux à l'IRIS et secrétaire général de la Fédération internationale des universités catholiques. Vous avez publié en janvier votre dernier ouvrage, Le Vatican, la papauté face à un monde en crise. Donc on est en plein dans le sujet. Et Christophe Théobald, le régional de l'étape, si j'ose dire. Enfin, vous êtes franco-allemand ou germano-français. Vous êtes jésuite, théologien, professeur ici, aux facultés Loyola Paris, et membre de la commission théologique du synode sur la synodalité. Blandine, on va peut-être commencer avec vous, parce que effectivement. On s'est réjoui quand on a vu le nom du pape et sa provenance en se disant on a quand même eu du pif de vous choisir puisque un pape américain. Alors beaucoup de monde vont dire finalement il est américain mais il n'est pas vraiment américain du Nord. Vous dites c'est un vrai américain.
Bonjour, bonsoir plutôt, et merci de m'avoir invité à discuter sur ce nouveau pontife que nous avons. Et effectivement, je me suis beaucoup réjouie, mais à titre très personnel, ça n'a rien de... Voilà, je me suis beaucoup réjouie quand j'ai entendu que c'était lui. Alors, doublement réjouie, pourquoi ? Parce que, très personnellement, hein, donc vraiment, vous allez voir les choses comme je les réduis à moi-même, un peu bêtement, mais d'abord parce que je travaille sur le catholicisme américain depuis tant d'années, sans que ça n'intéresse qui que ce soit. Alors que, à part peut-être François, oui, qui m'a souvent invité à parler. Bon. Et alors que c'est une catholicité qui est passionnante. Bien sûr, je la trouve passionnante, elle est très riche, elle a une histoire incroyable. Bon, donc je pourrais en parler des heures. Et juste avant l'élection, alors j'ai fait comme tout le monde, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé, j'ai fait des analyses, bon, parce qu'on me le demandait un peu. Et à l'avant-dernier jour, pour le journal La Croix, j'ai fait un papier alors, dont ils m'ont laissé libre du contenu. Et j'ai posé la question, et si jamais le pape était américain, en argumentant de cette idée que c'est d'évidence que pour tout un tas de raisons historiques, jamais jusqu'à présent la candidature d'un cardinal américain n'aurait été retenue, ne serait-ce que pour ne pas faire collusion finalement entre la tête de l'Église et la première puissance du monde à l'époque, notamment celle de la guerre froide. Donc la concordance pour que cela puisse produire est vraiment liée, il me semble, au fait que les États-Unis eux-mêmes ont reculé sur la scène internationale, qu'ils ont perdu quand même beaucoup de leur réputation de ce qu'on pourrait appeler un empire bienveillant. Et ils ont maintenant comme président un homme qui, avec son entourage, parce qu'il n'est pas tout seul, n'aide pas à la stabilité de l'ordre international et même nous déstabilise fortement, mais il n'est pas le seul. Disons qu'il est rentré dans la cohorte des empires nationalistes, et finalement peut-être que cette élection est providentielle pour tout un tas de raisons, mais de mon modeste carré ou angle américain, parce qu'il est américain justement. Voilà. Alors j'aimerais, et je m'en excuse peut-être, insister sur la nationalité de ce pape, sur ce que ça signifie, de mon point de vue, hein, bien sûr, puisqu'on me donne la parole, et ensuite, en sachant qu'il n'y a pas que cette raison-là, hein, et que cette thématique-là qui est importante. Mais première idée, Léon XIV est vraiment américain. Est vraiment américain, car on a effectivement lu qu'il était à peine américain, puisque il a effectivement été missionnaire pendant 20 ans au Pérou, qu'il a été le supérieur de son ordre. Alors même s'il est tout petit, ça l'a amené à quand même beaucoup voyager. Il parle beaucoup de langues. Il en parle 8, je crois. Il est donc devenu préfet récemment du dicastère pour les évêques, qui est quand même un poste extrêmement central et à partir duquel on voit toute la terre. Donc c'est un pape, on a tous insisté sur cette idée que c'est un pape vraiment international, de sorte que son identité américaine passait derrière. Eh bien, je voudrais affirmer l'idée qu'il est complètement américain. Pourquoi ? Parce que son histoire familiale, ses racines sont représentatives de ce que sont les catholiques aux États-Unis. C'est-à-dire que les catholiques aux États-Unis, ce n'est pas que la frange que nous entendons beaucoup désormais, parce qu'elle est à la fois puissante financièrement, puissante médiatiquement, et qu'en plus de ça, elle a beaucoup de représentants au sein du gouvernement de Donald Trump, qui va être cette frange nationaliste et vue de l'extérieur pas très charitable, et en tout cas qui a des directions idéologiques très précises, et celle des catholiques assiégés ou des catholiques sur la défensive ou dans leur forteresse qui se battent contre le reste de la société américaine, contre le reste du monde, et donc qui ont une vision qui est à la fois manichéenne de leur foi et de leur posture dans la société et de la position de leur pays dans le monde. Donc un catholicisme de niche qui est à la fois minoritaire, mais en même temps c'est lui qu'on entend le plus et qui revendique sa propre identité. donc qui revendique une identité, on va dire farouche, et de, qui contamine, en tous les cas, la représentation qu'on a du catholicisme américain. Je peux en dire quelque chose puisque je travaille justement sur les relations entre politique et religion aux États-Unis, et que ces catholiques-là sont à la fois politiquement, on va dire, dans des postures qui réinventent la réaction, hein, enfin, mais la réaction qu'on a connue en Europe il y a deux siècles, et qui, aussi d'un point de vue ecclésial, se considèrent comme des ultra-catholiques, plus catholiques que le pape, et qui vont expliquer, et qui ont expliqué, ou qui ont fait partie de ceux qui ont monté une cabale contre François entre 2018 et 2019. Donc voilà, tout ce...
Quand vous dites minoritaire, c'est 30% du catholicisme, la fange juive évangélique.
Je ne pense
c'est...
pas. Je ne pense
même pas.
Non, je ne pense
moins
pas.
Que ça.
Je pense moins que ça, parce que si on fait les, comment dire, les pondérations démographiques, alors c'est certain que les catholiques américains sont, et c'est là où je voulais en venir, très divers par leurs origines. Et c'est en ça qu'ils sont très intéressants. C'est un melting pot. Ils viennent vraiment. C'est une église qui est la plus universelle. Bien sûr, il y a des catholiques européens qui arrivent d'Europe du Nord, des Irlandais, qui arrivent d'Allemagne, qui arrivent de Pologne, de Lituanie, d'Ukraine. Donc, on est un gros de Hongrie. Vous avez un pourcentage encore important de catholiques qui sont immigrés d'Europe, dont les ancêtres sont immigrés d'Europe, et ensuite d'Europe du Sud, les Italiens notamment, et puis vous avez plus récemment des immigrés asiatiques, donc une catholicité asiatique qui augmente, notamment sur la côte ouest. Donc quand on fait les cartes, on voit que dans le nord-est, l'origine est largement européenne. Plus on descend vers le sud, évidemment, l'origine est hispanique. Et quand on va vers l'ouest, l'origine est à la fois hispanique et asiatique. Donc, on a des communautés.
Les Asiatiques sont des Philippins, des Coréens.
Des Philippins, des Coréens, des Vietnamiens. Hein, puisque les Vietnamiens ont majoritairement, après la chute de Saigon... Les Vietnamiens catholiques ont majoritairement émigré vers les États-Unis. Et on oublie qu'il y a aussi des catholiques dans la population amérindienne. Alors ça, c'est un des aspects les plus fascinants de ce catholicisme, c'est qu'il y a eu beaucoup de missions, notamment des missions jésuites, chez les tribus amérindiennes avant la conquête de l'Ouest. Et qui a précédé de quelques années, voire de quelques dizaines d'années, la conquête de l'Ouest, et qui était dans la continuité des missions jésuites canadiennes le long du Mississippi et ailleurs, puisque vraiment les jésuites ont été les grands missionnaires des espaces américains, du Nord et du Sud. Bref, et pour finir, donc, cette population hispanique, de plus en plus nombreuse, qui viennent pas simplement du Mexique, qui viennent des Caraïbes, qui viennent maintenant d'Amérique latine, enfin, donc un melting pot incroyable, et qui représente l'universalité catholique. Pour terminer, maintenant, vous avez aussi des populations africaines qui rentrent dans ce melting pot catholique. Donc voilà, de ce point de vue, le pape que nous avons est parfaitement représentatif, puisqu'il est un pape... avec des origines créoles, des origines donc de Louisiane, à la fois française, mais aussi caraïbe, antillaise, et il représente la créolité de la Louisiane. Alors c'est très important. Honnêtement, je trouve que c'est très important parce que il y a eu un très bel article du New York Times il y a 2-3 jours là-dessus, parce que la présence française sur la terre américaine et notamment le long du Mississippi, rejoignant le Canada, a été à la fois ancienne, mais a donné naissance à des sociétés, métisses, qui perdurent, j'allais dire, dans les corps et dans les noms aujourd'hui de beaucoup d'Américains. Et ces sociétés métisses, c'était des sociétés métisses franco-indiennes d'un côté ou des sociétés métisses, alors on va dire franco-africaines de l'autre. Et ces sociétés-là étaient beaucoup moins intolérantes, on va dire, racialement, beaucoup plus tolérantes au métissage que que ce n'était le cas, bien sûr, à l'intérieur des colonies britanniques. Et donc, le mainstream américain grande difficulté à concevoir, à penser le métissage, ce qui n'était pas le cas dans les communautés catholiques. Tout ça pour dire que les catholiques américains ont une mémoire du fait d'être minoritaire, dans de nombreux aspects, notamment parfois minoritaire linguistique aussi, minoritaire racial. Ils ont aussi le souvenir d'avoir été très discriminés dans le passé et enfin d'être tous des immigrés.
Parce que jusqu'aux années 60, l'Amérique était dominée par les WASPs, les
whites
anglo-saxons protestants.
Donc la tradition de l'accueil dans les paroisses américaines, elle est profonde. Hein. Ces paroisses américaines, elles sont multilingues aujourd'hui. Avant, il y avait des paroisses nationales. Maintenant, on a transformé ça en paroisses multilingues. Elles sont dotées de beaucoup de structures d'accueil, de gens qui arrivent pour les intégrer, pour les aider à s'installer. Là aussi, la préférence pour les migrants, elle n'est pas inventée par François, elle est, j'allais dire, très très enracinée dans la culture catholique américaine.
Dans la culture et dans sa propre culture familiale, si j'ose dire.
Et dans sa propre culture familiale. C'est pour ça que ils sont plus résistants que les autres, les catholiques, au discours anti-immigré qui est très développé maintenant dans la polarisation politique américaine. Mais ils sont quand même plus susceptibles qu'avant d'y être sensibles, notamment au sein des populations, on va dire, de souche européenne, parce qu'elles-mêmes se sont socialement élevées dans la société américaine depuis au moins les années 60. Il faut voir que les immigrés catholiques ont longtemps fait partie des classes les plus pauvres de la société américaine, notamment dans le monde ouvrier américain. Ces populations qui, au fur et à mesure, se sont élevées socialement, se sont aussi progressivement, droitisées. Est-ce que je peux dire ça comme ça? En tous les cas, elles se sont un peu transformées aussi dans le mainstream américain. Mais globalement, c'est quand même une église qui est très très ouverte à la diversité. Et qui a une très forte tradition d'accueil des immigrés de partout.
Merci. On parlera évidemment sans doute de la question du rapport avec Donald Trump et son vice-président qui porte son catholicisme en bandoulière. François, on va passer à vous. Vous êtes spécialiste de géopolitique. Le pape François avait parlé d'une guerre mondiale en morceaux. Et là, on est dans une guerre chaude dans beaucoup de points du globe, pardon, l'Ukraine, le Proche-Orient, le Soudan, la péninsule indienne. Alors, comment vous réagissez à l'élection du pape Léon et quels vont être les sujets internationaux qui l'attendent?
Alors, comment...
Mettez bien contre votre menton, comme ça, c'est le plus simple.
Oui, ça marche comme ça, non?
Oui.
Oui, vous m'entendez?
Collez-le contre votre manteau, oui.
Voilà. Bon. Je vous dirais que j'ai accueilli avec une certaine perplexité cette élection. Alors, j'avais lu l'article de Blandine, donc je n'aurais pas dû être perplexe. J'aurais dû me dire, voilà, il y a à la fois le Saint-Esprit et Blandine, et donc quand vous mettez les deux, ça vous donne un résultat prévisible. Bien. Pourquoi perplexité? D'abord, un conclave, C'est pour moi un processus d'élection, de cooptation, qui, alors pour reprendre des mots un petit peu sociologiques, relève d'une rationalité limitée. Voilà. Rationalité limitée, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que vous mettez des hommes qui ne se connaissent pas nécessairement, voire qui ne se connaissent pas, qui ne parlent pas nécessairement la même langue, qui n'ont pas tous les mêmes degrés d'information, de connaissances sur les uns et les autres, et ça produit un résultat. Voilà. Rationalité limitée, je vous donne juste un exemple, mais plusieurs cardinaux ont parlé depuis l'élection et ont décrit la liste impressionnante des vertus du nouveau pape qui est un homme intelligent, un homme intériorisé, un homme d'écoute, un homme qui sait gouverner, un homme de prière, etc. etc. Bon, je dirais qu'en dehors du 200 mètres nage libre aux Jeux Olympiques, il doit avoir à peu près toutes les qualités. Voilà. Sauf que lorsqu'on demande aux mêmes cardinaux dont vous connaissez bien le pape, vous l'avez rencontré, la réponse qui vient immédiatement, c'est « Ah non, pas du tout ». Voilà. Et donc, si vous voulez, quand je parle de rationalité limitée, je me dis, voilà, comment ces hommes, dans un processus qui est un processus complexe, en sont parvenus tout de même à élire un homme qui, certes, figurait sur les listes, mais pas nécessairement en priorité. Et qu'est-ce que cela peut donner dans dans les suites en fonction de leur degré de connaissance. Alors, juste pour titiller nos amis jésuites, il y en a sans doute dans cette maison, mais souvenez-vous que lorsque Bergoglio a été élu, j'ai relu ces jours-ci les réactions, j'avais un dossier de presse, etc. Bon, il a été également extrêmement acclamé, etc. Mais c'est quand même ce même Bergoglio qui, une fois devenu pape François, après s'être adressé une première fois à ses frères cardinaux, c'est dans sa toute première allocution, quelques mois plus tard, leur disait quand même qu'il souffrait de 15 maladies spirituelles, dont un Alzheimer spirituel. Donc, vous voyez, dans le degré de connaissance mutuelle, il y a peut-être quand même là un certain nombre d'incertitudes qui se jouent. Ma deuxième cause de perplexité, c'est le fait que tout le monde savait tout de même qu'il y avait un certain nombre de courants qui traversaient comme ça les cardinaux, bon, 3-4 courants, on pourra y revenir. Or, il semblerait que, alors un, on le sait, l'élection a été facile, rapide. Et là encore, certaines indiscrétions disent que le score a été bien au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. C'est-à-dire une sorte, sinon d'unanimisme, en tout cas de très grande majorité. Et donc la question que je me pose, c'est finalement, quel est le point d'équilibre qui a été trouvé entre ces cardinaux pour que leur choix se porte effectivement sur cette personnalité-là, en fonction de leur degré de connaissance. Voilà. Troisième point, pour répondre à votre question, ensuite je viendrai aux questions plus géopolitiques, et je ne veux pas casser dans ce que je veux dire notre soirée, mais il se pourrait que pour l'Église catholique, ça soit un non-événement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se polarise sur l'élection d'un homme, voilà, parce que c'est l'Église catholique, parce que c'est une institution qui est très centralisée, hiérarchisée, en dépit d'évolution qu'on a pu voir ces dernières années, qu'il y a un effet miroir avec les médias. Mais quand vous regardez l'impact de Jean-Paul II sur les grands mouvements des idées, des circulations des idées et des croyances, etc., à commencer par son propre pays, regardez ce qui se passe finalement en Pologne aujourd'hui. Le taux d'appartenance catholique est toujours plus élevé que la moyenne européenne, mais enfin, progressivement, on voit quand même que on arrive à une moyenne qui va s'approcher de la moyenne européenne dans quelques années. Bon, si vous regardez l'impact de Benoît XVI sur l'Église catholique en Allemagne, je ne suis pas sûr que ça soit un impact très probant. Et les dernières enquêtes qu'on a sur le catholicisme en Argentine montrent que sous le pontificat de François, le taux d'appartenance catholique a baissé de 13%, 14% dans certaines enquêtes, pendant ce pontificat. Voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est que bien évidemment, il y a un rôle du pape, il y a un impact du pape, ne serait-ce d'ailleurs qu'en termes de nomination. Nomination de la curie romaine, nomination des cardinaux, nomination des évêques, nomination ou acceptation de l'élection d'un certain nombre de personnes, etc. Une fois que l'on sort de cet aspect-là, tout ce que nous disent les enquêtes en sciences sociales des religions manifeste que, tout de même, il y a la proposition faite par les autorités catholiques, et puis il y a les réceptions extrêmement diverses par les catholiques. Hein, voilà. Notre collègue Grace Davy de Grande-Bretagne disait autrefois à propos du pape Jean-Paul II, on aime le chanteur mais pas la chanson, the singer, not the song. Voilà. Bon, je suis pas sûr que ça ait tellement changé. Alors avec le pape François, si, il y a eu effectivement des évolutions, notamment autour des enjeux sociaux, mais sur tout ce qui concerne les politiques de la vie, la morale concernant les politiques de l'intime, etc., on voit bien que le divorce demeure profond, et je dirais même plus que les grandes données de la foi catholique demeurent finalement aujourd'hui des objets, non pas de consensus, mais de controverse au milieu même des catholiques.
Vous faites référence à quoi ?
Bah, vous regardez les sondages de votre journal, par exemple, un bon journal, hein, sur voilà, Jésus est-il fils de Dieu, etc., sur la piété mariale, sur voilà, les grandes doctrines, vous verrez qu'il y a des écarts fondamentaux entre ce que l'autorité catholique propose et la manière dont c'est perçu. Émile Poulain disait à ce sujet autrefois, le croyable n'est plus crédible. Voilà, le croyable n'est plus crédible. Et je pense que là, on est sur un point, effectivement, hein, c'est un des grands dossiers sur lesquels on pourra revenir, mais qui est extrêmement important. Voilà. Tout ça pour vous dire que voilà, on évoque un sujet qui est certes important.
Et remontez-le. Mettez-le.
Voilà. Je vais finir par l'avaler. Ouais. Un sujet qui est certes important, mais au regard des grands enjeux qui traversent le catholicisme, je crois qu'il ne faut pas surdéterminer l'importance de cette élection. Voilà. Alors ensuite, juste pour terminer sur la question effectivement qui moi m'a préoccupé ces dernières années, qui était de la diplomatie pontificale, deux trois remarques. Toutes les enquêtes dont on dispose au niveau international montrent que le pape François était, le seul leader religieux mondialement connu, et deux, le seul leader, alors je vais dire politique et ou religieux, les deux, majoritairement apprécié. Voilà. Sans doute parce que son type d'incarnation de la fonction, la manière dont il a pris en charge un certain nombre de thèmes, y compris de manière virulente, correspond sans doute peu ou prou à ce que dans l'opinion publique, entre guillemets, on attend du catholicisme. Alors que le pape est identifié effectivement à la lutte en faveur des pauvres, la lutte contre les injustices sociales, et qu'à cela s'est ajouté un style de vie. Une sorte d'exemplarité, hein, dans la façon, on pourrait y revenir, mais de revêtre le vêtement du pape, voilà, vêtements pontificaux, dans la façon de vivre. Je ne vis pas dans le palais apostolique, mais je vais à côté, etc., etc. Il y a une sorte d'exemplarité qui, visiblement, a marqué l'opinion publique. Voilà. Et là, je pense que pour le successeur, ça sera sans doute un point d'attention, ou en tout cas que l'opinion publique l'attendra peut-être sur ce sujet-là. Ensuite, et je termine par là, on pourra y revenir par la suite, je pense que dans la diplomatie du pape François, ou en tout cas que dans, oui, on va dire la diplomatie, le pape François était un militant de la paix qui a revêtu les habits de protestataire, les habits de médiateur, les habits d'humanitaire, mais qu'il s'est éloigné du style diplomatique avec des avantages et des inconvénients évidents, et qu'il y a eu des inflexions sous son pontificat sur des sujets très précis. Le rapport, alors, dans son langage, à la guerre, pas de guerre juste, mais est-ce que c'est le problème ? Est-ce que le problème n'est pas plutôt celui de l'acceptation de la légitime défense armée ? Voilà. Le refus systématique du nucléaire, que ce soit sous la forme de la dissuasion ou même de l'arme nucléaire. Voilà. Donc, effectivement, c'est un pacifiste. Un pacifiste, je dirais, dans le style. Quand j'ai relu tous ses discours, on voit bien que l'émotion est souvent présente, notamment lorsqu'il se rend dans des cimetières militaires. L'émotion est présente sur l'Ukraine. Et donc, il y a eu là des inflexions dont il faudra voir si son successeur, effectivement, les reprend à son compte, ou s'il revient à des formes plus traditionnelles de diplomatie, y compris, je dirais, dans son rapport avec les diplomates professionnels qui l'entourent. Je termine juste là-dessus, mais par comparaison entre les différents derniers pontificats ou ceux du XXe siècle, je pense avoir rarement assisté à autant de rectifications ou oui, on va dire de rectification entre les diplomates du Saint-Siège, on va dire le numéro 2 Parolin et le numéro 3 Gallagher, voilà, et le pape. Et ça de manière pratiquement continue de 2013 jusqu'à il y a quelques semaines, lorsque Gallagher prenait la parole de nouveau sur le conflit en Ukraine et avait des propos qui étaient quand même assez différents de ceux que tenait le pape François un an plus tard.
Alors, Léon, il est mathématicien et docteur en droit canonique, donc
alors, il est effectivement...
on peut penser qu'il... Et puis effectivement, il a sa première intervention n'était pas... Il a lu un discours qu'il a rédigé, donc c'était pas...
Oui, alors ça, c'est effectivement...
beaucoup moins spontané que son prédécesseur.
Sans doute que ça fera partie également des points d'attention. On sait que le pape François, alors avantage pour les journalistes, hein, aimait parler de manière spontanée. Donc, ça ruine un petit peu la figure de hiérarque éloignée. Il avait un sens des formules et ça relève chez lui d'ailleurs, si on veut être juste avec lui, je crois, d'une réelle pédagogie. Moi, j'étais marqué quand j'ai accompagné X fois des universités catholiques pour le rencontrer. On a dû se voir au moins 13 ou 15 fois. Alors, on n'était pas proches, hein, mais voilà, soit en petit comité de 15, 20 universités ou d'une centaine. Et il avait toujours des formules ciselées qui faisaient que vous repartiez en vous disant « bien vu ». Alors, quand vous creusez, parfois, vous dites « oui ». Là, vous savez, c'est un peu comme la guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale en morceaux. Ça marque. Voilà, la formule, elle est géniale. Voilà. Maintenant, comme enseignant en relations internationales, si je la reprends, je veux dire, oui, il me manque peut-être une typologie de la violence par derrière. Et donc, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Mais voilà, on n'attend pas de lui non plus un cours de relations internationales. Et je pense que là, il y avait effectivement une pédagogie du pape qui a su marquer et qui, je crois, fait partie vraiment de son héritage et de son succès. J'évoquais effectivement le fait qu'il était très majoritairement apprécié. Je pense que sans ces formules, la mondialisation de l'indifférence, la Troisième Guerre mondiale par morceaux, qui suis-je pour juger, enfin, on pourrait multiplier. Voilà, toutes ces expressions-là sont des expressions qui s'expriment dans un langage d'abord qui est compréhensible par chacun, voilà, et qui ont marqué l'opinion. Et là, par rapport à son successeur, effectivement, il y a sans doute un travail qui va devoir se poursuivre, ou au contraire, on verra qu'on revient à un style plus classique.
Alors, Christophe, l'un des legs importants de François, c'est le synode sur la synodalité, donc dont vous êtes l'un des experts. Dès sa première intervention, le pape Léon XIV a appelé de ses voeux une église synodale. Est-ce qu'on peut penser qu'il va poursuivre cette œuvre et quels sont les principaux défis qu'il va devoir affronter? Et d'abord, votre première réaction à son élection.
Oui,
calez bien le micro.
Oui, j'étais aussi surpris, évidemment, par cette élection. J'avais lu le matin même votre article. Ça m'avait touché, mais pas convaincu tout à fait. Voilà ce qui est arrivé. Alors après, évidemment, je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est le nom. C'est pas à ça que je m'attendais. Léon XIV. Ouais. Léon XIV.
François avait parlé de Jean XXIV ou de Paul VII.
Oui, ou François II, ou voilà, et encore tout à fait autre chose qui aurait été possible. Donc cette filiation avec Léon XIII, il l'a expliqué le samedi dans la dernière congrégation générale, qui est statutaire, en faisant le lien avec la révolution industrielle et la révolution culturelle dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, c'est-à-dire la révolution numériologique. Donc ça, je pense que c'est un point, je dirais, tout à fait décisif. J'y reviendrai. Vous rappelez que le pape François avait dit « Nous vivons pas dans une époque de changement, mais dans un changement d'époque. » Et je pense, pendant les 12 ans de pontificat, ça s'est entré quelque part dans les mœurs. Cette prise de conscience qu'il y a un tournant culturel fondamental qui s'est produit. Et je pense que là, je dirais, le pape Léon va continuer un peu dans cette ligne-là, dans cette prise de conscience. Il va certainement pas le faire de la même manière que le pape François. Alors peut-être, je dirais, puisque le titre, c'est quand même les défis, je dirais, le monde n'a pas beaucoup changé pendant les 4 dernières semaines. Et donc, les défis restent les mêmes. Et peut-être l'élection est une occasion d'en prendre de nouveau conscience. Alors, je nommerai quatre. Le premier défi, c'est effectivement, je dirais ce qu'il a dit le premier soir, nous voulons être une église synodale. Mais je dirais, là, il y a une très profonde continuité historique. Je dirais, nous sommes dans un mouvement de continentalisation de l'Église. Une différenciation des continents, et c'est Jean-Paul II, avant le tournant du millénaire, qui a commencé ça, qui avait convoqué 5 synodes continentaux, qu'il a célébré d'ailleurs à Rome, et avec des exhortations post-synodales. Le pape François a continué cela d'une certaine manière, mais avec une nouvelle méthode, une nouvelle manière de procéder, c'est-à-dire la portefeuilleté de l'Église catholique. Il l'a renversée d'une certaine manière en commençant par le local. Et ça, c'était tout à fait décisif d'ailleurs pendant le synode. Le local, le national, le continental et finalement l'Église tout entière, ce qui est l'expression d'Hervé le Grand, qui était aussi au synode comme invité. Et donc, il l'a fait avec une nouvelle méthode, une manière de procéder. La question, c'est au fond, comment accéder à quelle unité aujourd'hui? Alors là, pour moi, il y a deux défis qui sont inévitables dans ce long mouvement qui commence à la fin du dernier siècle, peut-être un peu grâce à l'Amérique latine, au CELAM, qui est au fond le premier... la première unité continentale qui a pris son autonomie, d'une manière très conflictuelle d'ailleurs, 1955. Alors pour les autres continents, c'est beaucoup plus tardif. Alors je dirais un double défi. Le premier défi, c'est ce que Vatican II a appelé la hiérarchie des vérités. Quel type d'unité, à quel niveau, pour être un tout petit peu caricatural, je dirais bénir des couples, des partenariats homosexuels, fiducia supplicans, et croire en la Sainte Trinité, c'est pas au même niveau. Et donc, on est dans cette sorte de complexification extraordinaire, je dirais, du patrimoine chrétien. Et donc, comment différencier les choses? Et là, c'est Léon XIII, de nouveau, qui est intéressant, qu'on n'a jamais assez précisé. Rerum Novarum, c'est le premier texte qui parle du principe de subsidiarité. Et je pense que le pape Léon fait référence précisément au principe de subsidiarité. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de différencier au niveau de la foi, je dirais, les contenus. Il faut encore voir à quel niveau se décident les choses, ce qu'on appelle l'inculturation. Donc, la question de la compétence des conférences épiscopales. La question de la compétence des conférences, des conférences épiscopales d'Amérique, d'Europe, etc., etc. Donc ça me paraît être pour le moment, effectivement, un premier défi tout à fait important et où le synode a introduit une nouvelle manière de comprendre l'unité. Non pas l'unité d'une manière monolithique, mais c'est le terme de Basile le Grand, 4e siècle, qui a été introduit, du traité du Saint-Esprit, l'harmonie, c'est-à-dire l'harmonie au cœur de la diversité. Alors ça, c'est un premier point. Un deuxième défi me semble être aussi la première session du synode s'est terminée avec 85 questions. Du synode sur la synodalité, 85 questions. Ça veut dire qu'il y a une libération de la parole qui a eu lieu dans l'encombrement des problèmes du catholicisme qui se sont d'une certaine manière de plus en plus accumulés sous les pontificats précédents. Il y a comme une sorte de soupape qui s'est ouvert et les questions étaient librement sur la table. Ce qui a conduit vers les 10 commissions, des groupes d'études. Et là, vous avez, je dirais, d'une certaine manière, les défis qui sont déjà un peu formalisés et qui sont en train d'être travaillés. Je nomme 3. D'abord, l'œcuménisme. Ça me paraît un énorme défi. Est-ce que le pape va se déplacer en Turquie pour la célébration du 1700e anniversaire du concile de Nicée. C'est-à-dire comment on va avancer sur le plan œcuménique. Je dirais les autres confessions et traditions étaient omniprésentes pendant le synode. Ils avaient tous les droits, sauf les droits de vote. Et donc on a eu quand même un seuil qui a été passé, et vous avez dans le texte du synode une nouvelle définition du ministère pétrinien. Selon Vatican I et Vatican II, il est le garant et le fondement de l'unité de tous les chrétiens et de l'ensemble de l'épiscopat. Et le texte ajoute, ici, c'est signé par le pape, et le garant de la synodalité.
Et donc ça veut dire... Ça a ajouté le synode.
Oui, ça a été ajouté. Voilà. Et ça veut dire aussi la synodalité des églises. Et ça veut dire aussi une avancée sur le plan œcuménique. Alors ensuite, troisième, je dirais, défi, le père Ranier avait dit à la fin du concile Vatican II, quand il est rentré, dans l'Église catholique, il est plus aisé d'interpréter des dogmes que de les changer des bancs dans une église. Et je pense qu'il s'agit de ça, c'est-à-dire une sorte de tournant, au fond, je dirais, des pratiques, autour, évidemment, ce qui a été introduit, la conversation dans l'esprit, c'est-à-dire la question comment discerner, comment prendre des décisions. Il y a eu des critiques du droit canonique qui ont été formulées. Et il y a une commission du canonique, je dirais, du synode, qui s'est mise en place. Et la question de la transparence, avec toute la question des abus, il ne faut pas oublier ça. Ça reste aussi, nous sommes qu'au début finalement, quand on regarde l'Église universelle, ça reste à mon avis un défi tout à fait décisif pour le nouveau pontificat. Comment va-t-il gérer les problèmes à l'intérieur des différents épiscopats? C'est pas que tous les épiscopats du monde n'ont pas, comment dire, ouvert, je dirais, les dossiers et ont commencé à réfléchir avec les victimes. Voilà, ça c'est un troisième défi. Et le dernier défi, peut-être, c'est la réforme même de la curie, qui n'a uniquement commencé, a été commencée, avec, au fond, je dirais, une première décision absolument décisive pour l'avenir du catholicisme. Ce n'est plus le dicastère pour la doctrine de la foi qui est au cœur, mais c'est le dicastère pour l'évangélisation et pour la mission, qui doit avoir la main sur l'ensemble des autres dicastères. Deuxième défi, c'est la circulation à l'intérieur de la curie. Et je pense que l'avantage du pape Léon par rapport au pape François, le pape François est venu de l'Argentine sans aucune expérience de la curie. Donc il n'a cessé de créer des instances parallèles, je dirais, et au fond, il y a des tensions qui en sont nées là, alors que Léon, le pape Léon, c'est un homme depuis 2 ans, c'est pas très long, mais un homme estimé quand même, je dirais, à l'intérieur de la curie. Et je pense que ça lui donne quelques possibilités pour continuer la réforme de la curie, je dirais, comme gouvernement central de l'Église dans cette idée de circulation synodale. Voilà un peu les 4 points que je relèverai.
Très bien. Est-ce que vous voulez réagir?
Alors, oui, j'aimerais... essayer de lier ce que je viens d'entendre à la personne effectivement de ce pape qui d'une certaine manière a immédiatement porté son propos dans le premier discours qu'il a eu autour de l'unité des catholiques entre eux, donc considérant que à l'intérieur des églises catholiques, et précisément, encore plus précisément, notamment de l'église américaine, il y a des processus de division qui ne sont pas simplement des problèmes, mais voilà, donc des fossés qui se sont creusés. Donc l'unité, mais en même temps qu'il a parlé d'unité et de paix à l'intérieur de l'église, il a immédiatement, dans le détour d'une phrase, parlé d'église synodale. Et il s'est mis dans les pas de François. Donc, en l'écoutant et en y réfléchissant, je me suis posé la question si il n'allait pas continuer à la fois cette réforme de l'Église qui avait été commencée par François, en incarnant lui-même l'unité et en l'incarnant en revenant sur les fondamentaux du prédicat et du prédicat de la foi, et partout où il ira, puisque maintenant les papes sont la figure du pasteur nomade. Donc ils ont le siège de Pierre, mais ils parcourent toute la terre, et ils parcourent la terre finalement, ils prêchent, comme le Christ. Donc la prédominance de la figure pontificale va être celle-là désormais, avec effectivement un phénomène qui a été mis en branle et qui ne risque pas, je pense, de s'arrêter, mais qui va s'approfondir, de synodalité, c'est-à-dire finalement que les églises aient leur propre champ territorial, continental, de manière subsidiaire, à la fois d'autorité et d'initiative, ce qui permettra de digérer la diversité des cultures catholiques. Et que ce pape soit américain, du Sud et du Nord en même temps, qu'il ait vécu en mission dans un pays qui est à 90% amérindien, le Pérou, je pense que ça n'est pas non plus anodin, puisque, comme vous le savez, il y a eu un grand synode sur l'Amazonie. Et il me semble que l'un des enjeux de ce synode, parce que je l'ai lu, je l'ai lu sous la plume de François, en tous les cas dans une de ses déclarations, après qu'il était en Afrique, c'est d'intégrer finalement le meilleur de la spiritualité amérindienne dans le catholicisme, et au-delà de ça, peut-être, dans pas si longtemps, de mettre en place un rite, qu'on pourrait dire un rite amérindien. C'est pas mal avancé, comme il y a un rite africain, un rite zaïrois. Mais pourquoi je pense à ce rite amérindien et à tous les signes que François avait donnés dans ses différents voyages, dont le dernier au Canada, c'est parce qu'il a été accusé par la frange dont nous parlions tout à l'heure de réintroduire le paganisme dans l'Église catholique, d'être un pape hérétique, païen, et un certain nombre ont appelé à la démission de ce pape à cause de ça. Donc cette histoire de réintroduire le paganisme dans l'Église, elle est aussi vieille que l'Église, hein, c'est la querelle des rites. Mais dans la querelle des rites et derrière la querelle des rites, vous avez cette question de l'inculturation et cette question effectivement de la souplesse que peut permettre la synodalité, d'avoir donc des églises continentales.
Gardez bien le micro près de vous.
Des églises plus localisées, enfin continentales, c'est déjà énorme, mais qui vivent dans leurs différences, un peu comme les églises orientales, hein, on l'a déjà réfléchi, et avec l'œcuménisme, hein, donc c'est l'unité de l'Église n'est pas son uniformité latine, on va dire, mais ça va au-delà, et la fonction du pape va se transformer en chef d'orchestre de cette diversité synodale. Voilà.
Christophe ? Non ? François ? Oui, ensuite, on passera aux questions.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, je le reformulerai ou je prolongerai peut-être sur deux ou trois points à ma manière. Je pense effectivement que la question que vous souleviez, unité, diversité, et à l'intérieur, effectivement, cette question de la hiérarchie des vérités est particulièrement importante et peut-être centrale. La question que je me pose, et ça fait écho à ce que vient de dire Blandine, c'est deux choses. Un, qu'en est-il de l'intransigeantisme catholique, qu'on a bien pu voir quand même dans les critiques de ce pontificat et qui demeure quand même assez puissamment représenté, j'allais presque dire, à travers les différentes églises locales, premier aspect. Deuxième aspect, qu'en est-il de l'intégralisme catholique par rapport à cette hiérarchie des vérités? Intégralisme catholique, oui, je vais le dire d'une autre façon. Il y a des tics de langage, hein, mais qui sont aussi des tics de pensée dans le catholicisme. Donc si vous regardez bien, tout est intégral dans le catholicisme. Vous avez l'éducation intégrale, le développement intégral, la paix intégrale, etc. Voilà.
Écologie intégrale.
Alors si on veut le dire autrement, le fait que l'enseignement social, depuis Léon XIII, progressivement, l'Église catholique parle de tout, juge de tout et jauge de tout. Voilà. Qu'est-ce que ce mouvement historique peut encore aujourd'hui signifier? et notamment par rapport aux questions qu'on évoque. Et puis, une toute dernière remarque, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur la synodalité, mais là encore, je me pose la question de l'écart, alors c'est pas obsessionnel chez moi, mais ça c'est un peu une déformation professionnelle, l'écart, si vous voulez, entre ce type de discussion qu'on peut avoir ou que vous pouvez avoir entre vous, entre spécialistes, et les attentes d'un public plus large. Voyez, une fois qu'on répond oui, on va dans une église synodale, oui, il y a une hiérarchie des vérités, etc. Si je veux être un peu caricatural et vous me comprendrez, si je suis femme et que je veux être ordonnée, accéder, etc., qu'est-ce que ça signifie? Et si je veux être encore plus caricatural, quand on a en tête les débats qu'il y a eu en Allemagne ces dernières années, qu'est-ce que ce processus synodal très maîtrisé que vous nous annoncez peut donner comme effet par rapport à des attentes qui sont peut-être très fortes et qui s'expriment différemment et qui attendent peut-être un autre type de réponse que ce processus lent de maturation que vous avez évoqué et auquel je souscris totalement.
Oui, peut-être quelques remarques. D'abord, par rapport à ce que vous venez de dire, dans les groupes d'études, il y a aussi évidemment le groupe numéro 9, où il y a toute une série, ça fait partie pour moi des défis, toute une série de questions éthiques, de théologie morale qui interviennent. Et d'une certaine manière, le symbole, c'est ce qu'on appelle les LGBTQIA+. Voilà. Toute la question, des études du gender, etc. Et donc, apparaissait d'une manière très nette une sorte de contradiction. Certains disent contradiction, d'autres disent tension, entre le todo du pape François, il faut lever les barrières, voilà. Le confessionnal, c'est pas un lieu de jugement, etc., d'un côté. Et alors la théologie morale classique. Et donc avec cette sorte de formule qui était sortie du psalmiste, vérité, amour et vérité se rencontrent. C'est très vite dit. C'est très vite dit. Et donc là, vous voyez, on va bien, on est dans une mutation à long terme. Parce que, au fond, la prise de conscience, je pense, sous le pape François, a été... C'est pas que quelques élites qui sont concernées. Est-ce que globalement, la conscience de la foi du peuple de Dieu peut bouger et évoluer? C'est ce que j'appelais, changer les bandes dans une église. C'est-à-dire de trouver des leviers simples, les plus simples possibles. Par exemple, cette histoire de la conversation, etc. Pour que les mentalités puissent bouger. Ça, c'est une première remarque. Et donc, je pense que le pape Léon va aborder d'une manière, dans un style différent, peut-être moins provocateur, au fond, cette question de fond, voilà, qui est une question de long terme. Et ça concerne évidemment aussi ce que vous avez utilisé les deux terminologies de Poula, l'intégralisme catholique, c'est-à-dire comment une différenciation va-t-elle s'y introduire? Parce que, les sociétés modernes sont des sociétés différenciées. Voilà. Fondamentalement différenciées, avec, au fond, l'idée de la non-transparence. Et il y a toujours un peu dans le catholicisme latin, c'est ça l'intégralisme, cette sorte d'utopie, pour l'appeler comme ça, c'est-à-dire de la transparence. Surtout, on a prise sur tout. Et sans doute, le pape François est le premier, et je pense que ça correspond bien aussi à la personnalité du pape Léon, au fond de dire on n'a pas prise sur tout. Il a commencé son texte sur l'Amazonie en disant « Je n'y connais rien ». Et je pense que même la curie romaine ne connaît pas très bien l'Amazonie. Et donc ça, c'est le début d'une différenciation. Et l'intransigeantisme, juste pour terminer par ce terme, à mon avis, c'est aussi maintenant, c'est plus du tout le même intransigeantisme, du 19e et de la première moitié du 20e siècle. C'est au fond, des réactions, beaucoup de peur et une sorte de crainte que dans cette diversification extraordinaire, je dirais, du catholicisme qu'on perd notre identité. Ce qui est une crainte qu'on peut comprendre.
On va passer la parole à la salle. Oui.
Ne connaissant rien à l'Amérique, j'ai été vraiment très intéressé par le point de vue de Blandine. Je voudrais poser, par contre, une question à Christophe. Deux questions.
Mettez bien le micro contre votre...
D'accord. Deux questions courtes. La première, parmi les défis, est-ce qu'il ne faut pas mettre aussi le sujet de la chute des vocations, en particulier en Occident? Et par ailleurs, je me demande si le modèle de la synodalité, qui est quand même extrêmement centralisé, tout venant finalement d'en haut, de Rome, du Vatican, est-ce que c'est un modèle qui peut réellement fonctionner?
Mais juste rapidement, je dirais, à propos de la première question, la question ne se pose pas partout de la même manière. Et peut-être a-t-on pu observer pendant le synode sur la synodalité que le continent le plus fragile et le plus divisé, c'est l'Europe, précisément.
Sur le plan de vocation.
Pas uniquement sur le plan de l'opération. Au niveau aussi de la division, on a beaucoup de langues en Europe. En Amérique latine, on a le portugais et l'espagnol. C'est beaucoup plus facile de se mettre d'accord d'une certaine manière. Et à propos des questions des vocations, il y a une sorte de stratégie qui s'est mise en place sous le pape François. C'est notamment le cardinal Ghirlanda qui a orienté ça. C'est-à-dire comment recréer une culture ministérielle dans l'Église. Et donc, on a inventé, au fond, réinventé ces trois ministères, l'acoluta, le lectorat, je dirais le catéchiste, pour des femmes et des hommes. Est-ce que cette culture, cette tentative est concluante? J'en suis pas tout à fait convaincu, mais ça risque évidemment d'occulter le problème fondamental que vous venez d'évoquer, aussi évidemment à travers toute la gestion des prêtres fidei donum qui viennent de l'extérieur et qui n'aident pas toujours à régler la question de fond. Alors le modèle synodal, à mon avis, est quand même, je dirais, un modèle très ancien dans la tradition ecclésiale et a toujours fonctionné depuis les débuts comme une sorte de contre-pouvoir par rapport à une conception unilatéralement hiérarchique de l'Église. Et là, je pense, je ne suis pas sûr qu'il y a des alternatives.
Autre question ?
Oui, je me demandais s'il n'y avait pas aussi, comment dire, ça n'allait pas être compliqué pour ce pape d'affronter aujourd'hui un monde où finalement l'idée d'universalisme est complètement en voie de disparition. Et au contraire, les religions servent à justifier des nationalismes et des exclusions, et que le multilatéralisme est aussi en voie de disparition. Donc finalement, est-ce que le pape va pas se retrouver le seul, aujourd'hui, au nom d'une vision du catholicisme, à défendre cette idée d'universalisme d'humanité qu'on voit quand même de plus en plus mise en cause par la constitution d'empires et d'empires avec des racines religieuses, si on pense à la Turquie, si on pense à la Russie, et aussi aux États-Unis, où aujourd'hui, justement, il y a une partie, Trump, c'est de dire que les États-Unis sont chrétiens et donc doivent refuser tous ceux qui ne sont pas chrétiens comme eux.
Blandine, François ?
Alors, il y a un pari, ou en tous les cas, effectivement, je ne sais pas si on peut dire une carte à jouer, c'est un peu grossier de parler comme ça. Mais cette Église-là, dans ce monde-là, dans lequel nous sommes, est effectivement l'une des seules à d'abord avoir une voix globale, par l'intermédiaire de ce pape, qui est finalement son grand communicant. Ce n'était pas prévu comme ça, mais c'est ce que c'est. Et donc, la portée de sa communication en faveur de la paix, alors qui ne sera pas du pacifisme, mais qui sera de reprendre, finalement, en termes internationaux d'aujourd'hui, c'est-à-dire le langage du multilatéralisme, de la coopération entre États, de la préférence pour la négociation, de la protection des personnes, des sociétés civiles contre les effets délétères des guerres d'attrition, etc. Donc la défense du droit humanitaire, que sais-je encore, la défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la défense du droit international. Maintenant, il reste l'ONU, hein, l'ONU, le pape et la France et l'Union européenne. Donc, donc là, je crois qu'il va y avoir une coalition à la fois pacifique et diplomatique aussi qui peut se mettre en place. Alors, ce pape-là, François l'a dit tout à l'heure, des tonnes de qualités, mais il n'est pas diplomate. Mais par contre, j'ai entendu que pendant le conclave, les cardinaux avaient beaucoup discuté du fait qu'autour du pape, il serait urgent maintenant d'établir une forme de conseil. Hein, de conseil. Et je pense que ce pape-là risque de laisser les diplomates faire leur travail et donner les grandes orientations, je ne dis pas à sa place, mais qu'il ne fera pas de déclaration à l'emporte-pièce. Jamais.
Oui, peut-être juste pour poursuivre. Vous avez raison, cette opposition frontale entre le nationalisme chrétien nord-américain avec ses formes impériales et l'universalisme chrétien défendu par François, ça a été l'un des grands combats de ce pontificat. Là où je pense que l'approche de François a péché, c'est probablement dans sa dénonciation tout azimut de toutes les formes d'impérialisme ou d'autorité occidentale. Je pense à ses récriminations permanentes sur la colonisation idéologique occidentale qui est revenue en permanence. Et du coup, je dirais que dans sa diplomatie, il a sans doute pas suffisamment su s'appuyer sur certaines forces possibles, trouver des points d'alliance, voyez, et notamment sur les questions qu'évoquait Blandine. Si vous reprenez la question des migrants, cette façon de taper systématiquement sur l'Union européenne en oubliant certains aspects l'a privé de certaines coopérations et collaborations possibles. Et finalement, je trouve que au terme du pontificat, on voit bien comment il y a eu effectivement cette dimension protestataire qui plaît à l'opinion publique, mais dans une perspective extrêmement réaliste des relations internationales, une diplomatie aussi désarmée que celle du Saint-Siège a besoin de relais, a besoin de s'appuyer sur des diplomaties étatiques et de finalement trouver des points de convergence sur un certain nombre de sujets. Et les sujets qu'évoquait Blandine sont des sujets effectivement de convergence possible sur le droit humanitaire, sur un certain universalisme, une défense des droits de l'homme, etc. Aussi limitée soit-elle, soit la diplomatie européenne, elle s'appuie quand même sur des registres qui ne sont pas si éloignés, ou des valeurs qui ne sont pas si éloignées de ce que traditionnellement la diplomatie du Vatican défendait.
Oui, est-ce qu'on ne peut pas dire que on est dans une époque où l'universal, évidemment, je dirais, on n'est plus à l'époque, je dirais, où on glorifie la mondialisation, mais où peut-être l'universalisme est en train de bouger très profondément. Je veux dire par là, comment intégrer au fond à la fois le local à différents niveaux et l'universel. Et je pense que la diplomatie vaticane, qui était quand même assez bien menée par un homme très discret, qui est le cardinal Parolin, reste extrêmement sensible au fond à ça, c'est-à-dire une sorte de multilatéralisme. Et finalement, je dirais, les grandes encycliques du pape François, si je pense à Fratelli Tutti et si je pense à Laudato Si, introduisent un nouveau type d'universalisme. C'est-à-dire, il y a quand même des défis pour l'ensemble de l'humanité sur notre planète qu'on ne peut pas ne pas ni accepter quelque part et honorer. Et donc, je pense qu'on peut espérer sur ces questions-là, la voix, je dirais, de pétrinienne reste une voix décisive.
Autre question ? Oui, devant.
Bonjour. Je suis argentine aussi. Je connaissais le pape François. C'est pour ça que je me permets de dire que je pense que pendant les l'intervention du pape. Parlez,
mettez le micro très proche.
Pendant l'intervention du pape François, je crois savoir que la quantité des fidèles augmentait fortement, presque 20%.
En Argentine, vous dites? En non. Argentine? Non, d'une non, manière générale.
En Argentine, non. En Argentine, le contraire.
D'accord.
Parce que pour des questions politiques. Parce que chaque fois qu'il défendait les gens faibles, il était associé à des politiciens d'extrême gauche, comme ça. C'est un peu... C'est comme ça. Mais sinon, dans le monde entier, je parle. Et après, la deuxième chose, vous avez parlé que le pape François, peut-être, on ne peut pas s'adapter. Il ne connaissait pas beaucoup la structure avant d'arriver à Rome. Mais sauf que dans notre pays, on a une mutation politique, économique, sociologique presque chaque semaine. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un open mind, une ouverture d'esprit énorme et une capacité d'adaptation et d'imprégnation des idées colossale. Maintenant, je me suis rendu compte que je suis loin. C'est-à-dire qu'il a, c'est pas un effort, n'était pas un effort pour lui de s'adapter et de prendre connaissance de toutes ces structures d'une façon incroyable. Et c'est ça que je voulais vous dire un peu, en me sentant un peu en représentant
en défense
pas
de le...
humblement, comme Argentine, de cet homme extraordinaire qui a bouleversé l'Église complète, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avant ne se sentaient pas concernés, et maintenant ils se sont concernés pour l'Église parce qu'on a vu l'exemplarité que le monsieur il a parlé et sa capacité à accueillir tout le monde. Il n'est pas touché. Ça, je le trouve d'une ouverture d'esprit sans faute. Merci.
D'autres questions?
Moi, j'avais une question, en fait. On a beaucoup reproché au pape François de s'être peu intéressé à l'Europe, ou au moins l'Europe riche. Pensez-vous que le pape Léon, lui, va avoir une attitude un peu différente vis-à-vis de ces pays?
Merci beaucoup. Bon, je te passe la parole juste après. Écoutez, moi, je ne vois pas totalement les choses de cette manière-là. Je reviendrai sur ce que vous disiez, Père. Je pense effectivement, et c'est évident dans Laudato Si, mais pas uniquement, que le pape, alors ça lui est à la fois propre, mais ça fait partie de la tradition de l'enseignement social, part de l'universel. Voilà. Vous avez des termes dans la pensée sociale de l'Église comme société internationale que vous ne retrouverez pas partout, de communauté internationale. Et avec le pape François, effectivement, notamment autour des questions environnementales, le point de départ, c'est notre maison commune. Et donc, je réfléchis l'ensemble des problèmes à partir de ce point-là qui est notre maison commune. Et de facto, on dépasse les nationalismes qui ne sont pas pertinents. Qui ne sont pas pertinents. Voilà. Donc, par rapport à l'Europe, effectivement, il y a, moi je dirais, non pas un désintérêt pour l'Europe, sans doute qu'il ne connaissait pas aussi bien la culture européenne, mais je veux vous dire, c'est valable. Le pape François nous a décentrés, nous, Européens, par rapport à notre façon de voir. C'est aussi un des avantages. Ensuite, je crois que ce soit sur l'Europe ou d'autres sujets, il a travaillé sur l'Europe à partir de problématiques qui lui semblaient universelles et a choisi ses déplacements comme des pédagogies pour illustrer les grands thèmes qui l'intéressaient. Et donc, si vous regardez ses différents déplacements en Europe, effectivement, vous verrez qu'il a pris la thématique des migrants, Lampedusa, mais les migrants, c'est pas que l'Europe, hein, loin de là. Il a pris la thématique du dialogue interculturel et religieux, et ça sera Marseille. Il a pris la thématique également, finalement, de l'articulation entre l'Église comme Église-Providence et les États-Providence, et c'est son grand discours à Strasbourg qui est tout à fait passionnant, en disant, bah, écoutez, le passé est le passé, avec ses ombres, ses lumières. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me tourner vers l'avenir et de voir comment l'Église catholique, force sociale, peut contribuer à la construction de nouveau d'un avenir commun. Et puis, vous avez des déplacements qui sont liés à la thématique des relations avec l'islam. Voilà. Donc, à chaque fois pour la Corse, la question de la piété populaire, de la religiosité. Voilà. À chaque fois, vous avez une illustration. Donc, c'est pas l'Europe. C'est une approche, pour le coup, qui est très différente de l'approche de Jean-Paul II ou même de Benoît XVI, qui est dans une approche beaucoup plus, me semble-t-il, patrimoniale. Là, ça n'est pas le cas. Donc, le continent est vu, mais vous pourriez dire la même chose pour d'autres déplacements, comme voilà lieu de d'explicitation de ce qui lui semblait important dans le cadre de sa pastorale.
Moi, il me semble que il y a eu encore, enfin jusqu'à Jean-Paul II, peut-être encore jusqu'à Benoît XVI, mais beaucoup moins, il y a eu un discours pontificale sur l'Europe. Il y a eu quasiment une utopie européenne de l'Église catholique qui a quand même inspiré une mobilisation politique d'un certain nombre de partis qui étaient de tradition catholique, les partis démocrates chrétiens. Et cette impulsion elle s'est défaite ou elle a à peu près disparu au moment de la construction de l'Union européenne et aussi dans la crise qui a suivi cette construction, notamment la fameuse dispute autour des racines chrétiennes de l'Europe. Et là, on a eu une espèce de swift là qui s'est passé. Et qui a permis de refaire renaître des pensées anti-européennes à fondement à la fois nationaliste et revendiquant des racines chrétiennes aussi en même temps. Donc François n'a pas du tout parlé de l'Union européenne, sauf en 2019, quand il y a eu ce grand mouvement qui est né à partir de l'Italie, mais aussi d'ailleurs, qu'on a appelé le mouvement national populiste, qui a été tenté par Steve Bannon, qui arrivait des États-Unis pour fédérer les populistes européens contre l'Europe, l'Union européenne, et avec comme projet un Euroxite généralisé. Et donc là, oui, on ne l'a peut-être pas entendu, mais François a parlé, en disant qu'il n'était pas, il ne fallait pas détruire l'Union européenne, que c'était, et il a eu quelques quelques phrases favorables à l'existence de cette Union et de tout ce qu'elle pouvait représenter. Mais effectivement, est-ce que ce nouveau pape va continuer l'utopie européenne qu'a portée l'Église catholique pendant tout le XXe siècle, en fait. Ça serait peut-être nécessaire aussi comme deuxième paravent par rapport à l'autre paravent qui est de se dresser contre les empires nationaux dans l'ordre international. Voilà.
Oui, beaucoup de choses a été dit. Il ne faut pas oublier peut-être justement les discours de Strasbourg. Il est quand même allé au Parlement européen, au Conseil européen. Il a eu le prix Charlemagne. Et donc là, on a dit...
Le prix Charlemagne, c'est un prix en Allemagne qui récompense un très grand Européen.
Oui, tout à fait. Et il a introduit à ce moment-là, je dirais, une métaphore dans ses textes, la métaphore du polyèdre. Alors, il a beaucoup parlé en métaphore, n'est-ce pas? Est-ce qu'on prend la métaphore de la sphère, c'est-à-dire où entre le centre et la surface de la planète, il y a partout, je dirais, la distance égale, qu'on se déplace ou non? Et pour l'Europe, il a utilisé justement cette métaphore du polyèdre. Donc, je pense qu'il était quand même assez critique vis-à-vis...
Donc, polyèdre, c'est donc...
Oui, c'est très difficile à décrire, voilà, tout à fait. Je veux dire... Le centre n'est pas où on pense, voilà. Je dis, bien sûr, dans chaque élément de la surface qui peut avoir des formes de losanges, etc., différentes formes, le tout est présent. C'est ça la thèse, je dis, au fond. C'est une toute autre manière de concevoir, je dirais, le pluriel et l'unité. Il a appliqué ça à l'Europe. Et alors, ce qui m'a énormément frappé pendant le synode, pendant les deux sessions, continuellement la question des autres continents, et vous les Européens, qu'est-ce que vous allez apporter de spécifique, je dirais, à l'ensemble du peuple de Dieu sur les autres planètes? ça ne peut pas être uniquement de l'argent.
Voilà. Les autres continents, vous voulez dire.
Sur les autres continents. C'est-à-dire, c'est évidemment une question extrêmement difficile parce que c'est une vache sacrée dans le catholicisme, notamment dans le catholicisme allemand, parce qu'évidemment, c'est le catholicisme le plus généreux quand même, je dirais, de la terre qu'on peut dire, premièrement, mais aussi, comment dire, le catholicisme qu'on n'ose pas trop critiquer parce qu'il y a énormément de dépendance financière. Qu'est-ce qu'on exporte d'une certaine manière? Est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on reçoit? C'est-à-dire, il y a un deal quand même inconscient en Europe. On reçoit des prêtres de l'étranger et nous, on paye, je dirais, des mouvements de développement sur d'autres continents. Et tant qu'on n'a pas, comment dire, crevé un peu, je dirais, cet abcès-là, les vraies questions, je dirais, européennes auront du mal à émerger. Et les Africains, les Latinos nous ont souvent demandé, alors on entre évidemment, je dirais maintenant, dans une phase synodale nouvelle, depuis le 15 mars, on va voir comment Léon va reprendre ça, en 2028, il n'y aura pas un nouveau synode, mais une assemblée ecclésiale, et qui doit vérifier la réception, comment dire, du synode sur un plan mondial.
Alors, expliquez là. C'est quoi la différence entre le synode, l'assemblée
C'est-à-dire, un synode, c'est notamment, c'est normalement une institution épiscopale. Et donc, on peut mélanger un peu d'autres personnes là-dedans.
Alors, mais fondamentalement,
assemblée ecclésiale, c'est une assemblée représentative de l'ensemble des églises de la planète, avec des personnes et pas uniquement avec des baptisés, mais pas uniquement, je dirais, des évêques. Et ils ont pas, elle n'a pas évidemment le même statut juridique. Et donc la grande question, je dirais, qu'est-ce que les Européens vont apporter finalement, un peu en spécifique, je dirais. Et peut-être c'est la question de Dieu qu'il faut reposer ici en Europe. C'est-à-dire, on parle tellement, je dirais, de l'Église et comment dire, comment organiser institutionnellement nos églises, comment organiser les, je dirais, les discours, être ensemble. Mais les questions centrales, peut-être c'est les autres continents qui attendent ça, qu'on les repose maintenant.
Question ? Madame au fond.
Oui, d'accord. Bon, bah, c'est pour aller dans la suite de ce que vient de dire le père Théobald. On a beaucoup parlé de thèmes très politiques finalement sur le synode, la place des femmes, LGBTQIA+, l'écologie, mais on n'a pas tant parlé de ça, de Dieu, du Christ, de la Trinité. Or, il me semble que le pape Léon en a dit quelques mots hein, de la place de la spiritualité dans cette société. Enfin, je ne sais plus quand c'était, peut-être samedi. Et donc, alors je ne sais pas très bien comment formuler ma question, mais il me semble que c'est vraiment le cœur de l'intérêt de jeunes pour le christianisme. Et donc, comment on peut réussir à mettre de côté toutes ces questions qui sont aussi très importantes et auxquelles il faut réfléchir pour quand même attaquer le cœur de l'Église catholique qui est quand même de transmettre la foi en Jésus crucifié et ressuscité, etc., etc.
Qui veut se risquer?
Je dirais en un mot, hein, après je laisse la parole à mes chers confrères qui vont dire des choses passionnantes. Vraiment, j'ai l'impression que ce pape-là, il a été choisi pour ça aussi, hein, pour remettre l'Église au milieu du... Enfin, le clocher, ou, enfin, je ne sais plus quelle est l'expression. Il va prêcher. Il va essentiellement prêcher et, dans son nomadisme, réinsuffler les fondamentaux de la foi. J'ai trouvé que commencer son premier discours en disant la paix du Christ, trois fois, quatre fois, et il a eu voilà, tout un discours, il a dû... Il a dit n'ayez pas peur d'une autre manière. Il a dit que Dieu est là, Dieu vous aime. Enfin, il a vraiment, il a eu des mots très simples en plus. mais qui était extrêmement, extrêmement puissant et percutant, et qui était complètement spirituel. Voilà, rien d'autre. Donc, s'il a un charisme personnel, ça va être celui-là.
Oui, François. Sauf, vas-y.
Alors, question difficile. Je serais peut-être, mais c'est vraiment pour la titiller, en léger désaccord avec avec Blandine. Non, il y a plusieurs éléments. Un, j'évoquais tout à l'heure, la place qu'a pris l'enseignement social, les questions sociales, progressivement. Quand je disais l'Église parle de tout, c'est vrai que quand au quotidien vous lisez ce que le pape dit, la curie romaine dit, etc. Enfin, est-ce qu'il est bien nécessaire que le pape s'exprime pour la journée mondiale du blé? Du blé, le blé. Pas le, oui, le blé, ça pourrait être le maïs, mais là c'est le blé, voilà. Bon, vous disant ça, je ne plaisante pas, puisque ça a été le cas. Voilà. On comprend bien, par derrière, hein, qui dit blé dit alimentation, hein, c'était journée mondiale du blé, par la FAO, à Rome, etc. Bon, voilà. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un poids de ces questions sociales dans les prises de parole de l'Église, qu'on comprend bien, et ça fait partie également du succès du pape François, mais qui cache peut-être d'autres aspects. Le pape François a eu quand même beaucoup de textes, je pense notamment des textes sur la mort qui sont absolument magistraux, hein, que j'ai trouvé extraordinaires. On les redécouvrira peut-être par la suite, mais c'est vrai que dans son héritage, aujourd'hui, on parlera plus de Laudato Si, de Fratelli Tutti et des questions des migrants, etc., plutôt que ces textes-là. Voilà. Donc pour moi, voilà, c'est une interrogation. Quand tout à l'heure, je vous parlais de cette place de l'enseignement social. C'est aussi par rapport à ces questions-là, effectivement, que ça se pose. Ensuite, il y a la manière de les aborder. Et c'est là que je vais légèrement titiller Blandine. J'ai été un peu surpris, pour ne rien vous cacher, de la manière dont Léon XIV évoquait si rapidement, pour le critiquer, bien sûr, c'était, je vais reprendre l'expression de René Raymond, un catholicisme en accusation. Hein, en disant la foi ça n'a pas à être moquée, etc. Oui, bon, j'avais pas l'impression qu'elle était à ce point-là moquée. L'expression d'athéisme de fait m'a aussi marqué. J'ai trouvé que voilà, que c'était un vocabulaire quand même très situé. Et puis s'y ajouter des critiques, alors récurrentes et classiques, sur une société qui s'adonne au plaisir, une société qui est fascinée par la technologie, etc. Voilà, quand vous lisez les travaux de nos collègues sociologues des religions, on voit quand même bien qu'il y a des attentes qui sont extrêmement diverses, qui sont extrêmement fortes. Je ne suis pas sûr que ce soit sous l'angle récurrent de la condamnation, et ça renvoie, vous voyez, alors c'est une forme, on évoquait tout à l'heure l'intransigeantisme, c'est une forme d'intransigeance, de critique de la modernité qui est récurrente, et qui me semble, aux cultures de mort, voilà, qui me semble peu propice à l'accueil de ces attentes qui sont pourtant extrêmement nombreuses et sous des formes extrêmement variées également. Que ce soit pour le coup en Europe, moi je suis frappé de voir que en Europe, et que ce soit l'épiscopat français, d'autres épiscopats ou le Saint-Siège, etc., on catégorise très vite sous forme, on labellise de secte ou de néo-ceci, néo-chamanisme, ou tout ce que vous voulez. Bon, je vous donne juste, je termine là-dessus, ce dernier exemple, parce qu'il date d'il y a 3 semaines et les bras m'en sont tombés. Je voyais que, alors c'est peut-être la Congrégation pour la doctrine de la foi qui venait de condamner la psychogénéalogie, en disant que ça n'était pas conforme à la doctrine catholique. Bon, j'ai envie de vous dire, pour connaître un petit peu le sujet, l'avoir suivi sans avoir écrit quoi que ce soit là-dessus, de quoi je me mêle? Et par ailleurs, est-ce que vous êtes sûr que par derrière les demandes qu'il y a dans ce domaine-là, vous n'avez pas des attentes spirituelles qui mériteraient autre chose que simplement de dire « niet, ça ne correspond pas à la doctrine, donc on évacue rien d'autre ». Voilà, je termine juste là-dessus, mais vous voyez, il y a des années, quand j'enseignais à la Cato de Lille, bon, j'étais en faculté de droit, mais on m'avait demandé d'enseigner aussi en fac de théologie. Et je faisais un cours de sociologie des religions. Je me souviens avoir fait un cours sur les attentes spirituelles et les pratiques à l'égard de la mort, etc. Et avoir vu un jeune séminariste se lever et me dire « Monsieur, vous n'avez pas le droit de nous dire ça, parce que ça a été condamné par le père X de l'épiscopat qui nous a dit que ce n'était pas conforme à la doctrine catholique. » Je lui dis, mais attendez, avant de condamner, est-ce que vous pouvez écouter les besoins, les attentes, etc. Et si vous voulez, j'ai l'impression qu'au niveau du Saint-Siège, voilà, il y a ce risque-là que je perçois. Et c'est vrai que j'ai trouvé les expressions de Léon XIV un petit peu convenues par rapport à ce sujet qui, comme vous le dites, est un sujet de très grande importance. Ça fait partie sans doute des grands dossiers qui ne sont pas suffisamment vus.
Oui, c'est un tout petit peu, je dirais, dans son homélie, dans le lendemain de son élection, voilà. C'est rapide. Et comment il va se positionner dans la suite sur cette question? C'est-à-dire, je pense quand même que le pape François introduit ici deux choses tout à fait décisives. D'abord, je dirais quand même, écouter. Et peut-être le centre de la tradition biblique et chrétienne, c'est d'abord ça. C'est-à-dire de réapprendre à écouter. Écoute Israël, voilà, Deutéronome. Et donc là, il y a eu, pendant les dernières années, je dirais sous le pape François, vraiment un apprentissage. Et on verra Léon XIV va aller un peu dans le même sens. C'est-à-dire avant de parler et de juger, c'est-à-dire de comprendre, comme vous dites. Et je dirais dans l'ensemble des textes quand même du pape François, c'est ça, je dirais, l'accent central. Je dirais le deuxième élément, maintenant ça m'a sorti, oui, c'est sa capacité quand même du pape François, je dirais, de traduire le langage classique avec des métaphores et des manières de parler contemporains sur les questions centrales de l'existence humaine. Et là encore, il faut attendre. Est-ce que vous parlez du prêche, n'est-ce pas? Comment va-t-il parler quand il va se déplacer aux gens? On ne peut pas le savoir. Mais c'est sans doute, je dirais, une question centrale, une question spirituelle, une question du langage. Le problème, c'est qu'on répète beaucoup, beaucoup de formules dans le christianisme. Et c'est contre ça quand même que le pape François a beaucoup lutté, pas répéter, je dirais, et finalement ça devient des formules vides, c'est-à-dire qu'ils veulent plus rien dire. Il y a cette sorte. Comment susciter, au fond, à partir des Écritures, et je dirais du langage extrêmement riche de la tradition, une créativité linguistique, c'est-à-dire qui permet de rejoindre le cœur des gens. Et je pense que ça, vu, je dirais, qu'on a une longue tradition. On peut la traduire d'une manière patrimoniale, vous avez utilisé ça, réfléchir continuellement aux racines chrétiennes de l'Europe, mais on peut se dire aussi, je dirais, tout ce patrimoine est une source, une potentialité de créativité spirituelle et linguistique. C'est ça qu'on peut espérer, ce que l'Europe peut peut-être apporter autre que de l'argent. Voilà.
Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Étienne.